au fil des pages. Une émission de la rédaction de Canal Academy. On retrouve Jean-Louis Chambon.
Chers amis de France et du bout du monde, bonjour. Heureux de vous retrouver sur l'antenne de Canal Academy à l'Institut de France pour un nouveau Au fil des pages où nous recevons Nicolas Bavrez pour sa nouvelle parution « Après le déluge, la grande crise de la mondialisation » qu'il vient de faire paraître chez Perrin, 193 pages, 10 euros. Nicolas Bavrez, bonjour.
Bonjour.
Nous sommes extrêmement heureux de vous retrouver sur notre antenne. La dernière fois, c'était pour faire un voyage avec vous sur une terra incognita suite à la parution de votre livre « En route vers l'inconnu ». D'ailleurs, cette parution, je le signale au passage, vous avez valu d'être nominé au prix Turgot du meilleur livre d'économie financière. Vous avez d'ailleurs obtenu une mention d'honneur. Donc, vous êtes habitué au grand succès de librairie. Donc, aujourd'hui, nous vous retrouvons pour une nouvelle parution qui reçoit un accueil particulièrement engageant et qui place cet ouvrage dans les meilleurs auspices, si j'en crois l'écho médiatique qui nous revient. Cette fois-ci, votre propos, c'est donc la crise après le déluge, c'est comme ça que vous la qualifiez. Et vous en faites donc une analyse très détaillée et vous proposez des pistes de sortie de crise sans compromis ni compromission qui risquent de marquer les esprits. Au moins trois pistes, nous allons y revenir. Alors avant de rentrer dans le vif du sujet, je rappelle brièvement votre parcours, en tout cas quelques éléments de votre parcours. Vous êtes normalien, Ulm, historien de l'économie. Vous êtes un ancien élève de l'École nationale d'administration. Vous êtes avocat à la Cour d'appel de Paris. Vous avez été membre du comité d'éthique du MEDEF, vous l'êtes peut-être toujours.
Non, ça... non.
D'accord, c'était hier donc. Et vous êtes par contre toujours un chroniqueur et un auteur très lu et très écouté. Vous êtes, dit-on, de tendance libérale, selon l'expression consacrée. Vous nous direz d'ailleurs ce que c'est le libéralisme aujourd'hui, au XXIe siècle. Et vous êtes un conseiller, on va dire, des grands de ce monde, en particulier du côté de l'Élysée. En tout cas, écoutez, si ce n'est entendu. Nous rentrons maintenant dans le vif du sujet. Nous commençons donc par le diagnostic. Quelles sont pour vous ces grandes raisons de cette crise et quelles en sont les conséquences irréversibles ?
Alors, ce qui est important, c'est de fait de ne pas se tromper sur l'analyse de la crise, parce que c'est en fonction de cette analyse qu'on peut essayer d'en sortir au mieux. Quand on regarde donc le mot crise, il vient de crisis en grec, c'est-à-dire le point ultime de la maladie où on va soit vers la guérison, soit vers la disparition. Et c'est vrai que dans les grandes crises du capitalisme, on a toujours ce monde qui meurt et puis ce monde qui émerge. Et donc, ce qui m'a frappé, moi, c'est qu'on parlait toujours de crise financière, ce qui semblait réduire un peu la portée de l'événement, alors que je pense que nous sommes en présence d'une grande crise du capitalisme, une crise vraiment économique qui va amener ce capitalisme à muter. Donc, pour aller vite, on est passé du monde keynésien qui s'est bloqué dans les années 70 au régime de la mondialisation à partir de la fin des années 70. Et c'est ce régime de la mondialisation qui, aujourd'hui, est entré en crise violente. Ce qui veut dire, c'est très important, que la sortie de crise, c'est pas simplement le fait de sortir de la récession. Mais pour sortir véritablement de la crise, il va falloir imaginer des institutions, des règles et sans doute une éthique différente pour le capitalisme. Et c'est ça qui va être très difficile.
Donc le capitalisme va sortir complètement, en tout cas largement différent de cette crise, rapport à la façon dont il était rentré.
Alors là aussi, l'histoire n'est jamais écrite. Quand on fait la comparaison avec les crises du passé, finalement, on a eu trois grands épisodes déflationnistes. un peu plus que le dernier siècle. Il y a eu la fin du 19e siècle, ce qu'on appelle la grande crise des années 1880. Et là, on a réussi à s'en sortir par des réformes économiques, des innovations, des réformes sociales également, qui ont permis d'avoir la croissance du début du 20e siècle. Et puis malheureusement, elle a été télescopée par le premier conflit mondial. Ensuite, on a eu le blocage de la production et de la consommation de maths dans les années 30. Et cette crise-là, elle est restée dans les mémoires parce qu'il n'y a pas eu de sortie économique. En réalité, il n'y a pas eu d'issue autre que la Deuxième Guerre mondiale. Et il a fallu ensuite, à l'issue de la Deuxième Guerre mondiale, repartir sur autre chose. Et donc aujourd'hui, c'est un peu la même chose qui se joue. C'est-à-dire que la mondialisation, il y a finalement trois scénarios aujourd'hui. Soit elle implose, un peu comme ce qui s'est passé en 14, parce que les nationalismes économiques, les protectionnismes, les dévaluations compétitives finissent par casser ce système d'économie ouverte. Soit elle se fragmente en différents pôles, soit on arrive à la faire repartir et à la préserver, ce qui serait, à mon avis, ce qui est l'intérêt de tous, parce que c'est de la croissance, c'est la sortie de la pauvreté de centaines de millions de gens. Mais pour arriver à ça, il va falloir faire trois choses. Coordonner les stratégies de sortie de crise pour la première fois à l'échelle du monde, ce qu'on n'a jamais fait jusqu'à présent. Ensuite, commencer à traiter les séquelles de la politique économique qui a été mise en place pour sauver les banques et pour enrayer la déflation. Et puis, effectivement, essayer de réformer ce capitalisme et lui donner une gouvernance, une réassurance politique, ce qu'on n'a pas fait jusqu'à présent.
Mais donc, sur ce domaine de la grande transformation du capitalisme mondialisé, on va retrouver des équilibres différents. Et ce que vous dites dans votre sixième chapitre, c'est qu'en fait, avec des titres qui sont extrêmement clairs, un, la revanche de l'Asie, deux, l'Europe et la France parmi les grands perdants, et de nouveaux équilibres. Alors, la revanche de l'Asie, c'est quoi concrètement ?
La revanche de l'Asie, c'est le fait que finalement, depuis le XVIe siècle, c'est l'Europe qui a, et ensuite l'Europe avec les États-Unis qui ont conduit le capitalisme et majoritairement l'histoire du monde. Quand on prend y compris le marxisme et le... C'est une idéologie qui est née en Europe. C'était des idées et des concepts européens. Par ailleurs, je rappelle qu'en 1700, la Chine et l'Inde, chacune d'entre elles faisait à peu près 25% du PIB mondial à l'époque. Et c'est descendu jusqu'à 3% dans les années 70. Donc elles ont disparu finalement de l'économie. Aujourd'hui, le Sud en général et l'Asie notamment en particulier, le Sud va faire la moitié du PIB mondial, ce qui n'était plus arrivé depuis le...
D'accord. Donc c'est un retour depuis le 17e siècle, à la puissance en quelque sorte de ces, du Sud.
C'est vrai que le Sud, il a la puissance démographique. Il a donc des atouts aussi importants en termes de matières premières, et ça, c'était neutralisé jusqu'à présent par des institutions politiques et des systèmes économiques qui finalement interdisaient ou bridaient le développement. Aujourd'hui, ça change.
Oui. Alors justement, du côté de l'Asie et de la Chine, qui est beaucoup d'actualité, est-ce que vous n'y voyez pas des risques particuliers, et notamment d'une nouvelle bulle ? Je crois savoir que sur les 7 derniers mois, la Chine a injecté de l'ordre de 100 milliards d'euros par mois dans le marché de la consommation.
Vous avez parfaitement raison. C'est-à-dire que la Chine a finalement échappé aux derniers chocs, soit les chocs sectoriels et régionaux 87, 97, 2001. Et elle a assez largement échappé à ce choc global. Mais bien évidemment, la Chine va connaître des difficultés, des crises et des bulles. Il y en a au moins deux pour l'instant. Il y a une bulle immobilière, ou même trois. Il y a la bulle immobilière, la bulle du crédit, puisque les Chinois ont totalement lâché les vannes du crédit. Et puis la bulle surtout sur l'investissement manufacturier, parce que 80% des crédits de la relance ont été consacrés à de l'investissement industriel, alors qu'il existe déjà des surcapacités considérables de production dans ce pays. Donc, il y a bien sûr des déséquilibres importants. Ce qui est quand même remarquable jusqu'à présent, c'est que les Chinois ont réussi à piloter leur économie de manière extrêmement intelligente. Derrière, il y a aussi d'autres grandes questions qui se posent. D'abord, la Chine, qui est maintenant la deuxième économie mondiale, ne pourra pas garder en économie ouverte une monnaie inconvertible, qui est donc le yuan avec son double,
avec le
renminbi, vis-à-vis du dollar et vis-à-vis de l'euro et des autres devises. Et puis l'autre grande question quand même, c'est est-ce qu'on peut avoir un pays qui a ce rythme de développement, qui va aller sur la frontière technologique avec en même temps un système qui n'est plus la Chine de Mao et de la révolution culturelle, mais en tout cas avec un système où la liberté politique est extrêmement contrainte. Donc ce divorce de la liberté économique et de la liberté politique est une des grandes questions du siècle.
Alors ça, c'est cette énigme de l'économie socialiste de marché. Vous l'interprétez comment ? C'est-à-dire que c'est une situation inédite. On n'a jamais vu durablement, vous le dites de façon magnifique dans votre ouvrage, on n'a jamais vu un pays supporter de telles contradictions sur le temps long. Ce qui me frappe, moi, de mon côté, et qu'on peut-être on ne voit pas toujours d'une façon spontanée, c'est que il y a quand même des bourgeons démocratiques qui se font jour. Il y a l'émergence d'une conscience démocratique qui cohabite avec ce progrès économique absolument fantastique et avec un principe, le parti unique, donc est proche d'une forme de totalitarisme. De quel côté, aujourd'hui, votre vision, de quel côté va pencher le balancier ? Est-ce qu'on va sortir par une formule de type révolution de sans culottes ? Ou est-ce que la chose inverse, c'est de tomber dans un système extrêmement totalitariste, encore plus, c'est-à-dire l'armée qui prend le pouvoir, etc. Enfin, je ne sais pas comment vous le ressentez, alors, mais ça me paraît être la grande énigme
au moment de Tiananmen,
du siècle, comme vous dites.
Voilà, donc la Chine est repartie avec les quatre modernisations de Deng Xiaoping en 1979. Et puis au moment de Tiananmen, il y a eu une espèce de contrat implicite qui a été qui fonde encore aujourd'hui le soutien quand même d'une majorité de la population au régime, qui est finalement le programme nationaliste, la réunification y compris avec Taïwan. Deuxièmement, le progrès économique, mais refus et donc maintien du monopole du parti communiste. Pour l'instant, ça tient, mais ça tient avec, on le voit, des tensions qui sont quand même très importantes, des tensions sur l'économie, notamment à cause de la dégradation de l'environnement, aussi le chômage où les Chinois ont envoyé des dizaines de millions de gens dans les campagnes, des tensions ethniques très fortes. On l'a vu au Tibet et puis on l'a vu au Xinjiang.
C'est la fameuse pratique du hukou. Là. Enfin,
voilà, c'est pour l'instant, donc les Han qui... il y a une dimension extrêmement impérialiste. Je crois que le Parti communiste, aujourd'hui, a encore la capacité de retenir les forces centrifuges. Il a des possibilités d'évolution qui sont un peu ce qu'avait fait le PRI au Mexique à un moment donné, c'est-à-dire de recréer un certain pluralisme à l'intérieur du parti unique, qui peut être un moyen terme pour gérer des formes de transition. La grande question reste le fait de pouvoir maîtriser, donc d'un côté, cet empire immense avec quand même des masses extrêmement considérables, et on voit que les tensions, le terrorisme, etc. sont quand même tout à fait présents. Et puis, est-ce que les Chinois pourront continuer dans une économie de la connaissance, une économie de services à haute valeur ajoutée ?
Sans liberté.
Sans liberté, en se rapprochant de plus en plus de la frontière technologique. Alors, ils ont des capacités considérables. Ils ont rapatrié certains de leurs meilleurs chercheurs qui s'étaient installés aux États-Unis. Ils ont créé des technopôles qui sont tout à fait impressionnants. Et donc, ils remontent la filière de la valeur ajoutée à une vitesse jamais connue dans l'histoire. Mais pour l'instant, ce n'est pas eux qui sont vraiment sur la frontière technologique. C'est à mon avis l'autre grand enjeu. Ils peuvent trouver des compromis. Par exemple, de fait, Internet est utilisé comme un outil de production à plein régime par les Chinois. Et en même temps, il est totalement contrôlé d'un point de vue...
C'est ça, ils arrivent à contrôler ce qui est en fait...
Voilà. Et la Chine a créé il y a des bataillons de guerre électronique, avec des bataillons entiers, des centres, avec des milliers de soldats chinois qui contrôlent Internet.
Donc, pour la démocratie, il y a peut-être des pistes. Par contre, au niveau géopolitique, vous parlez de directoire mondial, c'est-à-dire le G2 en quelque sorte, c'est comme ça que vous le qualifiez, si je me souviens bien. Vous pensez que la Chine a compris un peu avant les autres que l'hyperpuissance ne servait à rien ?
Les Chinois ont incontestablement compris beaucoup de choses parce qu'ils ont un comportement aujourd'hui qui est extrêmement responsable et qui montre que, en tout cas, ils acceptent des formes de solidarité. Aujourd'hui, si les Chinois tous les jours n'achetaient pas des bracelets de dollars, le dollar s'effondrerait. Bon, à l'inverse, ils ont un comportement qui est totalement prédateur sur les matières premières et sur un certain nombre d'activités ou de recherches stratégiques sur lesquelles ils profitent pleinement du passage à vide de l'Occident pour essayer de prendre le contrôle d'actifs, de sociétés stratégiques ou de sources d'énergie et de matières premières. Donc, on a ce double aspect. Sur la structure du monde du XXIe siècle, la particularité, c'est qu'il n'y aura plus d'hégémonie. Donc, les États-Unis vont rester la puissance dominante, mais ce n'est plus une domination absolue, c'est une domination relative. Et il y aura d'autres pôles. Donc, c'est sûrement un monde multipolaire, mais la multipolarité, ça veut dire l'hétérogénéité et l'instabilité. Et par ailleurs, le monde multipolaire, ça ne veut pas dire, comme on l'a beaucoup cru en France et en Europe, que c'est un monde multilatéral. C'est-à-dire qu'entre ces grands pôles, il y aura des jeux d'alliances, de confrontations. Donc, il y en a deux qui, normalement, sont certains de compter parmi les très grands, c'est États-Unis et Chine. Il y en a qui seront dans les grands sur certains thèmes, mais pas sur tous. L'Inde, la Russie, le Brésil, peut-être l'Afrique du Sud, si elle ne devient pas à nouveau au Zimbabwe. Et puis, il y a une grande interrogation sur l'Europe.
Voilà, parce que l'Europe, on y vient. Alors, vous dites l'Europe et la France, les grands perdants. Alors, la vieille Europe, vous pensez qu'elle sort plutôt...
Il y a l'Europe et le Japon, puisque le Japon était le deuxième mondial. Maintenant, c'est le deuxième en Asie, et très loin derrière la Chine. Okay. Et l'Europe, elle conjugue à la fois le vieillissement, le surendettement, la sous-compétitivité, une monnaie surévaluée, ça fait beaucoup pour les mêmes. Donc, en Europe, il n'y a que l'Allemagne qui, pour l'instant, soit bien positionnée parce qu'elle maîtrise ses finances publiques. Elle a réussi à gérer la réunification sans faire imploser complètement ses finances publiques. Et puis parce que c'est la seule nation d'Europe qui soit compétitive dans la mondialisation avec une très grande force de son industrie. Donc, aujourd'hui, c'est la seule nation qui... Alors, en revanche, elle a des problèmes avec sa démographie. Tout n'est jamais blanc pour tout le monde, exactement, et positif. Mais l'Allemagne, en tout cas, est assez bien positionnée. La France, elle, a des difficultés considérables puisque... finalement, la crise va accroître ces trois grands handicaps qui sont un État surendetté, mais surtout sous-productif, avec des services publics qui se dégradent en matière d'éducation, de santé, de justice, de sécurité. Un secteur privé qui est trop petit et qui, par ailleurs, voit ses pôles d'excellence et de compétences déstabilisés par le choc, quand on regarde l'automobile, l'aéronautique, le tourisme, l'assurance, le luxe, enfin tout ça souffre.
Vous retrouvez le thème de votre précédente publication, La France qui tombe. Elle continue de tomber alors.
Si vous voulez, il y a un grand paradoxe sur tout ce qu'on dit sur le modèle français, parce qu'on dit que la crise réhabilite le modèle français. Moi, je n'y comprends pas une seconde.
En tant qu'amortisseur. Hein.
Quand on arrive, oui. Il y a une chose qui est vraie, c'est que dans un pays où maintenant il y a 56% de dépenses publiques, quand l'économie privée s'arrête, il reste cette mécanique du public qui fonctionne. Mais je rappelle que la contrepartie de ça, c'est donc 8,5% du PIB de déficit aujourd'hui, un déficit structurel de 6,2% du PIB, 100% du PIB de dette à l'horizon de 2012. Et donc, ces dettes, contrairement à ce qu'on dit, il va bien falloir imaginer le moyen de les rembourser. Et pour l'instant, on n'a pas la croissance à mettre en face de ces dettes. Et en revanche, on a le dernier élément de grande préoccupation qui est le chômage permanent qui s'est installé dans notre pays et qui va de nouveau frapper plus de 10% de la population active. Je crois que c'est ça qu'il faut bien avoir en mémoire. La triste exception française, c'est que c'est le seul pays des grands pays développés dont le dernier excédent budgétaire remonte à 1973. Et c'est le seul des grands pays développés dont la dernière année de plein emploi, c'est également 1973. Donc, c'était il y a très longtemps.
Effectivement, on a sur le dos un poids structurel et une prise de conscience qui ne se fait pas. Puisqu'en fait, pour l'instant, on n'entend pas beaucoup de voix pour dire, cette fois-ci... Alors, je reprends votre phrase, vous parlez qu'il faut arrêter de creuser le trou. Là, pour le coup, ça s'applique à la France.
La gestion de crise, elle a été bonne parce que la France a fait partie des pays qui, d'abord, ne se sont pas trompé de priorité. Il fallait sauver les banques.
Ça, vous l'avez bien dit.
Il fallait sauver les banques, empêcher la déflation, éviter le protectionnisme. Et par ailleurs, elle a eu un rôle très utile dans la constitution du G20, qui est quand même le socle d'une gouvernance future de la mondialisation. En revanche, le problème de la sortie de crise est clairement posé, c'est-à-dire dans cette sortie de crise, il va falloir clairement commencer à régler nos trois problèmes qui sont surendettement, insuffisance de l'offre et puis chômage permanent. Et là-dessus, on voit très bien qu'aujourd'hui, en réalité, on a acheté un peu plus de croissance que les autres, pas moins de chômage, mais un peu plus de croissance et un semblant de paix sociale par une débauche de dépenses publiques. Ça ne peut avoir qu'un temps.
On a choisi comme priorité un plan qui privilégie l'investissement. Ça, d'ailleurs, on peut ouvrir une parenthèse sur le grand emprunt. Le moyen emprunt, on ne sait plus très bien.
Au départ, on avait privilégié l'investissement, mais c'est un des éléments de flou de cette stratégie de sortie de crise, c'est qu'on a de plus en plus de dépenses de fonctionnement et dont on peut douter de l'utilité réelle. Je pense par exemple, évidemment, à la baisse de la TVA pour les restaurateurs, au RSA, au RSA jeune a fortiori. Et puis, troisième exemple, les dépenses liées à la taxe carbone. Parce que on doit augmenter les dépenses en même temps que la taxe, c'est quand même une mécanique qui est tout à fait...
Donc, on a eu un effet d'annonce. Nous, on choisit l'investissement. Et en définitive, dans la pratique, il y a aussi beaucoup d'effets...
Dans la pratique, au fur et à mesure de la crise,
il y a une déviance.
Et pour acheter... la paix sociale, c'est vrai que la stratégie a été de remettre beaucoup d'argent sur des dépenses qui sont des dépenses de fonctionnement. Il y a un autre exemple criant de déséquilibre, c'est la sécurité sociale. Donc la protection sociale va dégager 60 milliards d'euros de déficit en 2 ans. Donc aujourd'hui, il y a une illusion monétaire terrible. Personne, ne mesure vraiment ce que ça représente, mais c'est gigantesque. Et autant... C'est vrai que si c'était des investissements, l'idée d'en reporter une partie du coût sur les générations futures pourrait avoir du sens. Autant sur faire payer les pensions de retraite ou le coût des soins par les générations futures, ça c'est complètement irresponsable.
Alors donc à un moment donné, il y aura l'épreuve vérité. Cette épreuve vérité, elle interviendra après 2012. Ou avant.
Ça, on verra, mais si on prend juste l'économie, du moins, normalement, c'est impensable de
d'attendre.
Ne pas...
C'est ce que je voulais faire.
On ne peut pas attendre pour normaliser la politique économique 2012.
C'est ça.
Ensuite, il y a le jeu de la politique. Je ne sais pas quelles sont les décisions qui seront prises, mais on a déjà décidé de manière un peu excessive, parce que quand on regarde en Europe, la correction a commencé à intervenir dans la plupart des pays. Les Espagnols augmentent les impôts, les Anglais diminuent les dépenses. Et donc, un peu partout, on a commencé déjà à normaliser les politiques économiques et à jouer non plus seulement on privatise aussi au Royaume-Uni, mais à jouer aussi du frein et pas seulement de l'accélérateur. En France, c'est vrai que pour l'instant, on se refuse à toucher au frein.
Donc, effectivement, les sirènes commencent à siffler très fort. Et d'un point de vue de l'économiste, on n'a plus les moyens d'attendre.
Alors, on n'a plus les moyens. Et pour une raison qui est quand même très forte, c'est que compte tenu du niveau des dettes publiques et de l'état de dégradation des banques centrales, il faut bien voir qu'aujourd'hui, le capitalisme mondialisé, il n'a plus de défense. C'est-à-dire que si on se remet dans les bulles, et il suffit de voir les matières premières, les marchés d'actions ou les banques et les bonus pour voir qu'on est en train d'en refaire, si on refait 2001, c'est-à-dire qu'on sort d'un crack par la constitution de nouvelles bulles, on va avoir une catastrophe encore pire et cette fois-ci, on n'a plus de moyens de défense.
Mais c'est ce que vous dites, on ne peut pas se payer le luxe, l'économie mondiale ne peut pas se payer le luxe d'avoir un nouveau crack de l'importance de celui qu'on a connu.
On ne peut pas avoir un nouveau Lehman.
On est passé à quelques centimètres du grand drame.
Enfin,
vous-même, vous l'avez dit, je me rappelle, à plusieurs reprises. C'était vraiment, je crois que le grand public n'a pas complètement mesuré, d'ailleurs, à quel point on était passé près du gouffre. Mais par contre, on ne peut pas se payer, on en est sorti, mais on ne peut pas se payer une nouvelle expérience qui, elle, mettrait tout le monde au tapis. Alors, on va terminer sur les scénarios de sortie de crise. Je lis ce que vous écrivez à la page 177. Trois sorties pour une crise. À travers la sortie de crise se joue non seulement la physionomie du capitalisme, mais une partie du cours du XXIe siècle. Les trois leviers décisifs qui décideront de l'avenir sont la régulation de la finance, la capacité à endiguer le protectionnisme et l'instauration d'un mode de développement respectueux de l'environnement. C'est quand même la grande synthèse de vos propositions. Vous pouvez peut-être les commenter un peu plus.
Ah oui, on l'a rappelé, tout va se jouer autour du fait de savoir si on arrive à préserver la dynamique de la mondialisation tout en la stabilisant. Donc il faut à la fois encadrer ce capitalisme, lui donner des institutions et des règles, donc sortir de l'idée d'autorégulation des marchés qui n'était pas raisonnable. Et puis, il faut construire la croissance future. Donc, la croissance future, il y a trois relais qu'on peut imaginer. Il y a les consommateurs du Sud, la demande intérieure de la Chine et des autres. Et ça, pour solvabiliser cette demande, il faut créer des systèmes de protection sociale, parce qu'aujourd'hui, un Chinois paye sa retraite, ses dépenses de santé, l'éducation de ses enfants, donc il a un taux d'épargne de 40%. Si on lui permet d'en dégager, évidemment, il va consommer. Il y a l'économie de la connaissance, et puis il y a tout ce qui tourne autour de l'environnement, mais sur lequel il faut faire attention, parce que c'est un peu comme Internet, j'allais dire. La nouvelle économie des années 90, on a fait beaucoup de bêtises, et puis ensuite, Internet est reparti sur des bases plus saines. Ce qu'on appelle aujourd'hui la croissance verte, il y a eu quand même beaucoup d'aberrations autour de l'économie subventionnée. Les biocarburants, qui étaient une aberration économique et une aberration environnementale, ou alors la bulle sur les énergies renouvelables. Donc, il ne suffit pas de déverser des subventions publiques pour faire des choses intelligentes.
Donc, la gouvernance mondiale qui peu à peu se met en place va dans le sens de ce que
ça,
vous espérez.
C'est une très bonne nouvelle. Il faut donc que le G20, j'allais dire, que ses décisions entrent véritablement en application. Il faut aussi que le G20 se saisisse de la question clé des monnaies.
Oui, alors ça, c'est peut-être la dernière question. On peut peut-être dire un mot sur cette dérive des monnaies, en particulier celle du dollar. Donc il y a certainement des éléments de stratégie qui dépassent les simples aspects économiques. Mais en quelques mots,
On parle toujours des déséquilibres des échanges avec les pays qui s'endettaient pour consommer et importer, et puis ceux qui épargnaient effectivement pour investir et puis pour exporter. Mais derrière, il y a le déséquilibre des monnaies avec donc un dollar qui continue à être en monopole comme fonction de monnaie internationale, mais qui n'en a plus, j'allais dire, la force économique. Un euro qui est surévalué de manière chronique et qui refuse d'être une monnaie de réserve complémentaire. Et puis enfin, on l'a dit, la monnaie chinoise qui, elle, est inconvertible, donc qui, par définition, est une monnaie qui n'a aucun rôle international, alors que c'est la deuxième économie mondiale. Oui. On ne peut pas rester dans un système ouvert avec de tels déséquilibres. Mais il va bien falloir en parler, parce que sinon, on n'arrivera pas à régler tout le reste, c'est-à-dire le déséquilibre de la localisation des activités et des emplois, ceux entre l'épargne et l'investissement, ceux entre le travail et le capital.
Mais c'est sûr que l'incertitude monétaire est un facteur de non-croissance.
C'est
une complexité.
Et alors, en revanche, pour finir aussi avec l'Europe, c'est vrai qu'un des grands aspects, un de mes grands regrets, c'est qu'en revanche, le gouvernement économique européen qui existait en octobre dernier au moment des plans de sauvetage des banques, depuis est retombé dans les limbes. Et ça, c'est vraiment dommage, parce que l'Europe elle-même doit aussi coordonner ses stratégies de sortie de crise avec des pays qui sont dans des situations très différentes, entre l'Allemagne, l'Angleterre, l'Espagne, la France ou l'Italie, et doit surtout se doter d'une stratégie pour arriver à remettre de la production et de l'emploi sur ce continent et à se réindustrialiser.
Le problème, c'est que l'Europe politique n'existe pas encore vraiment.
Exactement, c'est tout le problème du gouvernement. Si on a une démonstration par A plus B que cette Europe politique était indispensable, c'est en matière aujourd'hui de réassurance des chocs de l'économie et de nécessité d'une coordination forte entre les États qui composent l'Union.
Alors voilà, donc l'autre facette de Nicolas Bavraise, le grand avocat qui vient de plaider pour l'Europe politique. Effectivement, je partage cette analyse. Chers auditeurs, nous allons nous quitter et je remercie une nouvelle fois Nicolas Bavraise. Je rappelle cette remarquable parution « Après le déluge, la grande crise de la mondialisation » qui vient de sortir chez Perrin, 192 pages, 10 euros. Nicolas Bavraise, merci encore et toujours au plaisir de vous retrouver sur notre antenne.
Merci
à très bientôt.
Infiniment.